Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure du chercheur, le podcast scientifique de Télécom Paris, la première grande école d'ingénieurs du numérique. Dans ce podcast, je reçois Antonio Casilli pour comprendre si le numérique peut aussi être source de bien-être. Alors Antonio, tu es enseignant-chercheur à Télécom Paris. Tu es connu pour tes travaux autour des travailleurs du clic qui font tourner les algorithmes d'intelligence artificielle. Et tu réfléchis aux usages du numérique, au travail et aux libertés publiques. Alors aujourd'hui, nous sommes un peu à contre-courant de tout ça, car nous allons parler de la roadmap européenne pour la recherche sur le numérique et le bien-être.
Oui, donc j'ai participé à cette roadmap parce qu'à un certain moment, on m'a impliqué avec David Chavalarias et d'autres chercheurs de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France. J'ai participé à cette roadmap avec une contribution sur le travail digital. Donc j'ai tendance à ne pas utiliser le mot « le travail numérique » pour des raisons que je peux expliquer après. Le travail digital et le bien-être. Et donc la question s'est posée en termes de il y a des personnes qui réalisent des métiers qui sont fondamentaux, essentiels pour la production d'intelligence artificielle, de systèmes de machine learning et plus en général de solutions informatiques pour l'infrastructure actuelle, et ceci a un coût social, un coût social et même à la limite psychologique pour les personnes qui réalisent ça. Alors ces personnes, il faut bien préciser de qui on parle, parce qu'on a tendance tout de suite à penser à les personnes comme les ingénieurs ou les développeurs ou les data scientists. Certes, c'est important et eux aussi payent d'un certain point de vue un coût en termes d'implication, en termes de burn-out, en termes de perte parfois de repères ou de mauvais alignement par rapport à la société et ce qu'ils font. Imagine par exemple développer un système particulièrement dangereux ou controversé et après devoir vivre avec. Ces ingénieurs, ces développeurs ne sont pas la partie la plus importante en termes d'effectifs, hein, en termes de force de travail mondiale. On est vraiment loin d'être majoritaire. On parle de quelques dizaines de millions de personnes qui développent du code, par exemple au niveau mondial, si on se concentre sur les développeurs. Par contre, on a, selon des estimations récentes de la Banque mondiale, des centaines de millions de personnes qui réalisent ce que j'appelle le travail du clic. Donc le travail du clic est un travail d'entraînement des modèles, de vérification du fonctionnement correct des solutions d'intelligence artificielle lancées sur le marché et parfois de supervision en temps réel de ces modèles même. Et donc ça a un coût d'un autre type. Après, c'est vrai que dès qu'on se concentre sur mon sujet d'études, de mes études plus récentes, et donc les travailleurs du clic, on se rend compte que on peut détecter des risques spécifiques qui sont associés à ce type d'activité. Alors, quel type d'activité? De quoi parle-t-on? Parce que les travailleurs du clic peuvent paraître une catégorie un peu abstraite. Il s'agit de toute personne qui annote, filtre, enrichit ou structure des données pour la création d'énormes bases de données. Donc, imaginons par exemple le fait d'avoir une masse énorme de images non catégorisées, non étiquetées, et donc il faut que quelqu'un, à un moment ou un autre, seul, à la main ou avec des outils de segmentation, fasse le travail d'annoter ces images. Donc par exemple, de marquer sur ces images s'il y a un chat ou un être humain. Et s'il y a un être humain, de marquer son visage et certains traits de son visage. Alors ça peut paraître un truc qui n'a pas un impact particulier sur la santé ou sur le bien-être des personnes, mais en réalité il s'agit d'un travail qui est extrêmement répétitif, qui est extrêmement aussi, j'hésite pas à dire, dans certains cas, abrutissant, parce que c'est un travail qui consiste à répéter la même petite tâche en perdant de vue, si l'on veut, la finalité ultime. Donc ça c'est un cas. Après il y a des cas de beaucoup plus extrêmes. Par exemple, il y a des travailleurs du CLIC de catégorie particulière qui doivent travailler sur des données qui sont en soi des données problématiques. Ça peut être, par exemple, le cas des travailleurs qui font de la modération de contenu sur Internet. Donc, modérer des contenus violents ou vraiment extrêmes ou extrêmement problématiques peut entraîner des conséquences en termes de stress traumatique. Et nous, on interviewe assez régulièrement avec mes collègues, même ici à Télécom Paris, des personnes qui font ce travail de modération et qui ont des conséquences très fortes sur leur bien-être, sur leur vécu.
Et donc, tu as étudié ces populations de près. Donc, du coup, est-ce que d'abord, en termes de volume, tu sais à peu près combien de bataillons sont-ils? Et puis aussi, il y a une certaine, j'imagine, division sociale du travail. Donc, ils sont sans doute localisés dans certains pays, certaines régions du monde. Bah, on peut imaginer que leur revenu et leur niveau de vie n'est pas le même que le nôtre.
Oui, parce qu'il s'agit d'un travail qui est atomisé, qui est fragmenté en petites tâches. Donc, les personnes qui s'occupent de machine learning savent qu'il y a des plateformes spécialisées dans la production de micro-tâches et que les micro-tâcherons, donc les personnes qui réalisent ces micro-tâches, sont des personnes qui sont payées très très peu, très faiblement. On a des personnes qui réalisent ce travail du CLIC pas partout dans le monde. Et là, effectivement, l'estimation du nombre de personnes devient assez complexe. Et donc nous aussi, on s'est essayé avec nos collègues de mon groupe de recherche ici à Télécom. Le groupe de recherche s'appelle DeepLab. Donc Digital Platform Labor, et donc et on est au département de sciences économiques et sociales, et par exemple en 2019 on avait estimé qu'en France on a jusqu'à 260 000 personnes qui travaillent de manière mais au moins occasionnelle sur ces plateformes de micro-tâches. Après, si on va regarder du côté sur le côté international, les chiffres commencent vraiment à monter en flèche. Nos collègues de l'université d'Oxford, il y a quelques années, avaient estimé qu'il y avait jusqu'à 165 millions de personnes dans le monde qui travaillent sur des plateformes de travail en ligne de ce type, donc y compris effectivement les travailleurs qui produisent des données pour le machine learning. Et plus récemment, il y a eu une estimation de la Banque mondiale qui était absolument impressionnante parce qu'il parle de 430 millions de personnes. Bon, évidemment, ça, c'est la fourchette haute, mais en même temps, c'est une estimation qui est problématique, soyons clairs. Toute estimation est problématique, mais dans ce cas-là, parce qu'on a affaire à une population cachée, invisibilisée, c'est d'autant plus difficile.
Et ce sont des chiffres considérables. Alors, je ne sais pas s'ils sont en augmentation, mais en tout cas, tu nous disais que ces personnes ont également aussi un rôle de modération. Et on sait que la régulation de l'intelligence artificielle est un grand sujet d'actualité. Donc la modération, a priori, c'est plutôt un marché d'avenir. Donc est-ce que tu n'as pas d'inquiétude? Et comment, en fait, gérer ce problème d'invisibilisation et de travail du CLIC?
Ben alors, c'est un métier d'avenir, même si c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on s'imagine que de toute façon, dans la mesure où toutes ces personnes sont en train d'entraîner des algorithmes et des modèles qui s'améliorent au fur et à mesure, à terme, on pourra se passer d'eux et d'elles. Malheureusement, ce qu'on voit est que cette population est en augmentation. Même si on ne veut pas croire à l'estimation de la Banque mondiale, qui quand même signifierait qu'il y a 12% de la force de travail mondiale qui est impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce type de travail sur plateforme, quand même on a affaire à des services qui, des services et plateformes, je veux dire, qui deviennent de plus en plus importantes. Et donc depuis le Covid en particulier, il y a eu une véritable explosion, ce qui est compréhensible parce qu'effectivement chacun cherchait des occasions de gains en ligne, parce que pas mal de monde était enfermé chez eux. Et donc, il y a eu une montée importante du nombre d'effectifs, mais aussi une tendance que nous avions remarquée et sur laquelle on travaille beaucoup avec mes collègues de DeepLab. Donc la tendance à délocaliser vers des pays à faible revenu, donc des pays pauvres du monde, effectivement, est devenue encore plus forte. Nous, on fait on réalise ce qu'on appelle en sociologie des terrains d'enquête. Donc on part à certains endroits et on passe du temps à observer, partager notre temps et notre vie avec ces personnes. Donc on est allé en Égypte, Madagascar, on a fait des enquêtes aussi en Amérique du Sud, au Chili, en Bolivie. Il y a des pays comme le Madagascar et le Venezuela qui sont particulièrement impliqués dans ce type d'activité et dans lesquels des pans de plus en plus importants de la population et de la force de travail se consacrent à ces activités parce que c'est, selon leurs standards, c'est mieux payé qu'une activité locale.
Et est-ce que sur ces sujets, vous avez interpellé les géants du numérique, les GAFAM, enfin, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus ?
Alors, on les implique systématiquement et de manière diverse et variée. C'est clair que nous ne sommes pas exactement les bienvenus à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a un intérêt important et croissant de la part de, non seulement les GAFAM, mais aussi des entreprises qui sont plus petites, qui sont des start-up, ou alors qui sont des PME, qui commencent effectivement à se rendre compte qu'il là il y a un problème. Le problème pour eux c'est surtout que souvent même les start-up ne mesurent pas l'énormité c'est-à-dire la taille vraiment de cette population de personnes mises au travail pour quelques centimes parfois pour constituer leur base de données et tout ça est dû surtout au fait que c'est pas Google directement, bon pas tout le temps parfois oui, qui va recruter des personnes en les payant très très faiblement dans des pays très éloignés de, je sais pas, Mountain View. Mais c'est souvent des sous-traitants et des sous-traitants de sous-traitants. Ce qui rend le fait de se rendre compte qu'on a affaire à une population et surtout à des effectifs importants, c'est difficile donc pour ces entreprises. Donc le premier travail qu'on fait, c'est de les aider à voir. Les aider à voir ces travailleurs qui sont invisibles et qui sont invisibilisés par le système même. Après, c'est aussi un travail qu'on fait en triangulant l'action publique, donc la régulation, la bonne volonté lorsqu'on la rencontre des entreprises, et parfois en cherchant à plier la mauvaise volonté des entreprises, parce qu'il y a aussi des mauvais acteurs, soyons clairs, et dans ce cas-là, effectivement, le travail qu'on fait, c'est un travail qui est beaucoup plus difficile, qui consiste effectivement à réfléchir ensemble à des actions en justice pour... convaincre, on va le dire comme ça, les entreprises à respecter la loi, ou dans certains cas aider certains lanceurs d'alerte pour qu'ils puissent raconter ce qu'ils voient et en les protégeant et en assurant toutes les protections nécessaires.
Et donc là, tu parles des pouvoirs publics, tu parles de la régulation. Donc on a beaucoup de textes là en ce moment, notamment européens, qui sortent. Est-ce qu'il y a des choses de prévues dans ces textes-là ? Est-ce que ça bouge côté pouvoirs publics ?
Oui, ça bouge. Je suis pas certain que ça bouge dans la bonne direction. Mais donc l'IA Act est un texte qui, d'abord, est basé sur une approche par risque. Donc il considère qu'il y a des risques associés à l'intelligence artificielle et il classe ces risques en quatre catégories. Donc la plus haute, le plus haut niveau de risque est évidemment une intelligence artificielle qu'on ne devrait pas développer parce que il y a des problèmes importants de sécurité ou des conséquences importantes, même éventuellement pour la santé des personnes qui seraient les usagers ou les sujets de cette intelligence artificielle. Pensez par exemple à une intelligence artificielle qui s'occupe de, que sais-je, systématiquement couper le budget des centres de recherche qui développent des nouveaux médicaments, là, on aurait un problème. Mais il y a aussi des intelligences artificielles et des modèles qui sont problématiques, qu'il faut quand même, mais qu'on peut admettre, qu'on peut quand même ne pas interdire, mais qu'il faut bien réguler. Alors, la question de la régulation devient très vite une question, comme souvent dans le cas des institutions européennes, assez complexe, et on on arrive effectivement à opérationnaliser ce AI Act, donc cette nouvelle directive, avec 8 principes et plus de 50 standards qui devraient être respectés. Donc ça devient très vite très technique et en même temps, j'ai peur que cette technicité ne fasse le jeu de ceux qui prônent la dérégulation, c'est-à-dire que qui voudraient que les entreprises qui produisent de l'intelligence artificielle le fassent sans avoir tous les balises et toutes les limites que la loi parfois cherche à imposer. Et donc pour l'instant, c'est un texte qui est bâclé, qui est largement influencé par des lobbyistes important de grandes entreprises européennes et internationales, et je pense en particulier, parce que c'est dans l'actualité ces jours-ci, lors de l'enregistrement de cet entretien, à OpenAI. OpenAI et Sam Altman, d'un côté, côté des États-Unis, se présentent comme les champions de la régulation à tout prix de leur propre création, mais lorsqu'ils se déplacent vers l'Europe, vers Bruxelles, par contre, là, ils font du lobby pour chercher à limiter la régulation, pour empêcher la régulation, et c'est un problème important qui a des conséquences sur notre société, sur notre économie aussi.
Et pour donc en revenir aux travailleurs du CLIC, est-ce que ce sujet-là est complètement absent de la régulation prévue par l'IACT, par exemple, ou autre? Ou est-ce qu'il y a quand même des choses?
Alors, il est complètement absent de la régulation de l'intelligence artificielle en tant que telle, parce que les régulateurs ont encore aujourd'hui cette vision selon laquelle un modèle d'intelligence artificielle, c'est avant tout des paramètres, et s'il y a des données, les données tombent du ciel. Alors, donc, ils n'arrivent pas encore à, à situer le rôle des travailleurs du CLIC et des travailleurs de la donnée dans tout cela. Mais il y a d'autres directives et d'autres lois au niveau international et au niveau national qui permettent à terme de faire respecter les lois du travail, par exemple, ou les droits humains associés à ce type de travail. Et donc je pense à deux régulations en particulier. La première, c'est la directive sur le travail des plateformes. La directive du travail des plateformes est, lors de cet enregistrement, encore en discussion, mais elle ne devrait pas tarder à être approuvée. Et donc là, il s'agira de voir comment les États européens permettent ou mettent en place des lois au niveau national pour faire respecter cette directive qui grosso modo, vise à transformer tout travailleur de plateforme présenté aujourd'hui comme des freelances, comme des travailleurs usagers ou des personnes qui sont payées à la pièce, qui n'ont pas un véritable contrat, donc de les formaliser, de les présenter comme des employés formellement reconnu, ce qui est effectivement un pas dans une direction précise en termes de protection sociale. Et après, il y a d'autres lois et d'autres textes qui pointent plutôt la question de la responsabilité et du devoir de vigilance des grandes entreprises qui produisent des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, il y a des lois au niveau national aujourd'hui. Il y en a en France, il y en a en Allemagne, mais bientôt il y aura aussi une directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que si je suis par exemple, que sais-je, L'Oréal, pour dire une entreprise parmi 10 000 autres, mais une entreprise dont la taille est quand même importante. Il faut avoir plus de 400 salariés. Et je, par exemple, décide d'automatiser telle partie de ma production, et que pour ce faire, je délègue à tout un tas d'entreprises, y compris des entreprises qui, à terme, se situent, que sais-je, à Madagascar ou au Kenya ou au Cameroun, et qui assurent ce travail d'entraînement des données, je dois assurer que tout au long de la chaîne de production, les droits humains de mes travailleurs et les droits du travail de mes travailleurs soient respectés de la même manière que les personnes qui sont en France.
D'accord, mais là, on a quand même un problème avec les travailleurs du clic d'invisibilisation. Et donc, tu parlais de la directive sur le travail des plateformes. C'est vrai qu'on pense plus aux travailleurs Uber, aux entreprises de mobilité, qu'aux algorithmes d'IA. Et donc là, est-ce qu'il n'y a pas juste un problème d'invisibilisation de ces travailleurs?
Ben, c'est un problème aussi de où sont-ils situés, ces travailleurs. C'est vrai que la directive dont on vient de parler, donc celle sur le travail des plateformes, à la base, était pensée pour des travailleurs qui, pour nous, sont plus visibles. Parce qu'il suffit de sortir dans la rue pour voir des livreurs ou pour voir des chauffeurs BTC. Et c'est clair que c'est la première ligne, si l'on veut. Mais derrière cette première ligne, il y a un travail important auquel nous sommes en train de contribuer, comme DeepLab et donc comme Télécom Paris aussi, d'accompagner le législateur pour introduire dans cette directive de plus en plus des mesures et des points de vue et des formes de respect du travail des plateformes pour inclure aussi le travail des plateformes à distance et des micro-tâches. Donc ça, c'est un travail qu'on fait. Pas plus tard que le mois de février 2024, on sera à Bruxelles pour participer au forum des alternatives à l'ubérisation. Ça peut paraître un truc assez éloigné de l'intelligence artificielle, mais en réalité, on sera là avec des travailleurs des micro-tâches qui vont porter leurs témoignages et vont, on l'espère aussi, permettre aux législateurs de Bruxelles de voir qu'est-ce que ça leur fait, même du point de vue, effectivement, encore une fois, du bien-être et du vécu.
Pour terminer ce podcast, là, on était plutôt sur la production numérique, plutôt digitale, pour reprendre ton terme. Du coup, côté utilisateur, on a aussi la construction et la gestion d'un capital social en ligne, et les problèmes que ça pose en termes de privacy. On a aussi le travail bénévole sur les réseaux sociaux. Et alors, est-ce que ton travail y porte aussi sur ces aspects-là?
Alors, disons que ça, c'est effectivement quelque chose sur laquelle j'ai travaillé tout au long des années 10 de ce siècle. Évidemment, ça ne me rajeunit pas, mais en même temps, je suis aussi fier de ce qu'on a fait ensemble avec mes collègues. Donc, c'était quoi cette partie de mon travail autour de 2010, enfin, en 2010, j'avais publié un livre en France qui s'appelait Les liaisons numériques. Et ensuite, on avait publié un livre avec Springer en 2014 qui s'appelait Against the Hypothesis of the End of Privacy. Donc, contre l'hypothèse de la fin de la vie privée. C'était deux livres qui ont situé un peu notre travail sur la question de la sociabilité en ligne, de comment les gens se servent de réseaux sociaux, médias sociaux, pour chercher des occasions de solidarité, de collaboration, de coopération, mais aussi pour résoudre parfois des problèmes très concrets. Donc, je parlais des troubles alimentaires, mais il y a d'autres troubles de nature psychologique qui sont abordés systématiquement par des personnes en ligne qui s'accompagnent et qui créent, par exemple, des occasions d'apprendre ensemble, de découvrir ensemble des nouveautés, voire de s'organiser aussi pour organiser l'action politique. Donc, il y avait toute une partie de notre travail des années 10 qui portait sur comment les personnes qui coordonnent des manifestations en ligne pour protester contre telle ou telle mesure des gouvernements se coordonnent sur Internet, et qu'est-ce que ça fait le fait de permettre une libre circulation de ces messages qui peuvent par contre aussi conduire à un conflit violent. Donc tout cela pour dire que effectivement il y a une volonté, un besoin, une envie des usagers de se servir de ces technologies comme des technologies d'autonomie, de libération. Mais il y a aussi de l'autre côté une tentative qui, hélas, a beaucoup de succès dans le courant des dernières années de la part des grandes plateformes de capturer cette bonne volonté, de la transformer d'une part dans quelque chose de beaucoup plus encasermé, embrigadé. Donc c'est le cas de nos interactions en ligne qui sont façonnées par les algorithmes. L'algorithme qui nous suggère d'acheter ça, de communiquer avec ça, de regarder tel contenu, etc. Donc il y a cette forme de contrainte, mais il y a aussi une forme de contrainte qui consiste à capturer la bonne volonté, et donc cette contribution que tu as définie comme bénévole, mais que je n'hésite pas pas de définir comme non rémunéré, parce qu'en fait, c'est tout simplement une production de données qui n'est pas payée, mais qui, finalement, réalise les mêmes tâches que les personnes qui sont sur les plateformes de travail du clic. Parce que moi, comme n'importe quel autre travailleur du clic, je suis en train d'annoter des images, commenter des vidéos, de retranscrire des bouts de conversation, entraîner ChatGPT, préciser, dire à ChatGPT s'il a bien travaillé ou pas, tout ça, ça fait partie de la production d'intelligence artificielle. Et dans le cas de ChatGPT, c'est tout simplement de ce qu'on appelle de reinforcement learning, donc de l'apprentissage par renforcement, qui est une partie reconnue et qui n'a rien de caché de l'intelligence artificielle.
Et donc tu as réfléchi un petit peu à comment on pourrait justement rémunérer ce travail non rémunéré?
J'y réfléchis, mais ma solution ne va pas plaire à tout le monde, parce que la solution la plus simple est celle qui, hélas, s'impose dans certains milieux politiques ici en France, est une solution portée par des milieux libéraux et libéraux de marché, je veux dire, hein, donc qui disent tout simplement, il suffit de payer ces personnes. Il suffit de payer tout le monde, y compris ceux qui ne savent pas qui sont en train de produire des données pour l'intelligence artificielle. Et donc, si je clique sur X, en l'occurrence c'est Twitter, mais si je clique sur Facebook, hein, je suis en train de produire de la donnée, il suffit qu'à chaque fois que je clique, je reçois quelques centimes d'euros. Malheureusement, ça va mettre tout le monde dans une situation de devenir micro-tâcheron, et j'ai passé mes dernières années à montrer que les conditions de vie et de travail de ces micro-tâcherons ne sont pas quelque chose d'enviable. Il ne faut pas être jaloux de quelqu'un qui, au Venezuela, gagne 5 dollars, l'équivalent de 5 dollars par semaine, ou parfois plutôt par mois, en travaillant 8 heures par jour à cliquer sur des images.
D'accord, écoute, je te remercie Antonio. J'ai une dernière question pour toi, mais en forme de conclusion. C'est toi qui vas conclure ce podcast. Donc, on a vu que le numérique pouvait être source, malheureusement, de mal-être pour certains et pour beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des raisons d'espérer? Et numérique et bien-être, qu'est-ce que ça t'évoque?
Le numérique est en même temps une source d'inquiétude et une source d'espoir pour un nombre important de personnes sur la planète, à la limite virtuellement pour toute la planète, parce que tout le monde est impliqué dans les usages numériques, même les personnes qui ne se servent pas d'outils numériques, parce qu'il y a des traces qu'on laisse même par notre présence sur Terre. Donc la question est de chercher à limiter les pouvoirs sans contrepoids aujourd'hui des multinationales du numérique ou de certains gouvernements qui se servent de manière, malicieuse du numérique et qui donc sont en train d'introduire des pratiques abusives qui sont des pratiques autoritaires dans le contexte d'une technologie qui, à la base, est une technologie de libération. Donc, il faut que le numérique revienne à son inspiration d'origine.